Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, ravi de vous retrouver et de retrouver ce rendez-vous après une semaine d'absence. On devrait enfin reprendre un rythme régulier, quotidien, avec des habitudes stables et réconfortantes. Nous sommes le lundi 14 juin 2021. L'été n'a pas attendu que son nom soit officiellement écrit dans le calendrier pour arriver. Il fait déjà beau et chaud. On attend quelques 30 degrés cet après-midi et puis les nuages qui sont interdits de séjour dans le ciel du Beaujolais. Au programme de notre émission, on va retrouver Eddy Bernard pour nous parler sport. Je pense que le mercato des clubs a dû bien commencer déjà, qui aura quelques mots à nous dire à ce sujet. On terminera l'émission avec du jazz traditionnel, c'est Georges Botton qui nous proposera sa sélection du jour. Et avant ça, eh bien, on passe un moment avec notre invité du jour, avec moi en studio aujourd'hui, Thierry Grégoire, photographe originaire de Lille. Son arrivée dans le Beaujolais semble l'avoir inspiré puisqu'il présente depuis le 19 mai une exposition consacrée au Beaujolais à la maison des compagnonnages à Romanèche-Thorin. L'expo s'appelle « Perdu dans le Beaujolais », composée de 5 tableaux sur son, ou plutôt sur ses ressentis dans le Beaujolais à travers les saisons. Il va nous présenter son travail dans quelques minutes. Avant ça, on commence l'émission en musique. Avant de traverser notre région à travers le regard de Thierry Grégoire, on écoute Emma Peters et son titre « Traverser ». Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14 et 25 secondes, merci d'être avec nous. Emma Peters, tout de suite, traversée.
Je suis toute seule sur un tandem, seule sur un tandem. Personne à qui dire je t'aime, personne pour dire je t'aime. Je m'organise. Le ciel de Paris m'entraîne à la ramasse sur les quais de Seine, sur les quais de Seine. Solo, c'est pas facile de pédaler, alors je prends mon temps pour traverser ma vie. Traverser ma vie. Traverser ma vie. Je regarde devant, je suis déterre. Moi, je suis déterre. Fillette, lève la tête, même si souvent c'est dur. J'écoute mes maquettes à fond dans la voiture. Le ciel de Paris, toujours. Je regrette de pas t'avoir fait l'amour.
Ça, je regrette.
Alors, je chante pour toi. Mais est-ce que tu danseras pour moi toute la vie? Traverser ma ville, ouais. Traverser sans île.
Peters qui nous fait commencer l'émission en douceur avec son titre Traversée.
Ensemble sur Calade.
Allez, notre invité du jour, il est avec nous en studio, c'est Thierry Grégoire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe et vous présentez une exposition intitulée « Perdu dans le Beaujolais » qu'on peut voir jusqu'au 31 août à la Maison des Compagnonnages à Romanèche-Thorin.
Oui, tout à fait.
On va parler de votre, commencer par parler de votre votre parcours, essayer de mieux vous connaître. Vous avez commencé la photo il y a longtemps.
Ben, disons que j'ai 55 ans, donc je suis né en 66. J'ai commencé la photo vers l'âge de 12 ans en fait. Ouais. C'est un de mes oncles qui était professeur d'art plastique, pardon, et sérigraphe, qui m'a mis entre guillemets dans le bain, donc qui m'a formé, qui m'a acheté mes premiers boîtiers aussi. J'ai toujours même mon premier boîtier, entre guillemets, réflexe.
C'est un objet qu'on perd pas, quoi.
Ah, celui-là, je vais le garder. Ouais. Oui. Bah, il est même exposé au musée du compagnonnage, parce qu'on a mis quelques vitrines avec des boîtiers pour montrer un peu l'évolution de la photo aussi. Et c'est un boîtier que je garde et que je garderai toujours, c'est certain.
Ouais. Ouais. Et vos premiers souvenirs de photographie, peut-être un peu maladroit, mais les premiers moments où vous êtes dit, là, j'ai fait une belle photo, je tiens quelque chose, c'était quoi?
Bah alors dire j'ai fait une belle photo, oui, j'ai fait beaucoup de photos de rue. J'ai commencé par beaucoup de photos de rue,
ouais.
Essentiellement du noir et blanc. Mais j'ai fait aussi avec mon oncle un truc qui était assez intéressant à l'époque, c'est que j'ai vu le tunnel, le Eurotunnel se construire en fait à Sangatte. Ah ouais. Et régulièrement avec mon oncle, on allait faire de la prise de vue, de la photo. Et c'était ce qui était intéressant en fait dans le truc, c'était qu'on voyait le tunnel évoluer en fait. Et donc ça a été quasi, j'irais, enfin mes toutes premières, je me suis, comme je suis lillois en fait, j'ai vécu 50 ans à Lille, j'ai travaillé beaucoup sur la photo de rue, de la photo spontanée, et aujourd'hui c'est quelque chose quelque part que j'ai quasi abandonné.
Et la photo de rue, la particularité, c'est que vous avez dit spontané, c'est qu'il faut saisir l'instant. Il y a des gens qui bougent dans la rue et c'est ça que vous cherchez.
C'est tout à fait ça en fait. La photo de rue, en fait, donc c'est essentiellement de l'humain, je dirais.
Ouais.
Parce que bah, à l'époque, je faisais très peu d'architecture, des choses comme ça. Et en fait, c'est toujours avoir l'œil qui vive. Et ça va déclencher au bon moment, en fait, la photo de rue, c'est, ça reste, c'est, entre guillemets, enfin, quelque chose de très rapide. Je vais pas dire à l'instinct, mais faut être toujours sur le qui-vive pour voir le bon moment, la bonne action, et puis savoir déclencher, surtout au bon moment.
Et photographe, aujourd'hui, c'est votre métier?
Oui.
Vous êtes, vous avez jamais fait du portrait, de la commande, vous êtes...
Alors si, je fais même encore actuellement. Alors, il y a 20 ans de ça à Lille, je faisais beaucoup de social, donc de la photographie de mariage.
Ouais.
J'ai fait beaucoup d'aériens aussi, entre autres des photographies de la zone Euralie, qui est une énorme zone commerciale sur la métropole, enfin, en plein centre de Lille. J'ai touché un peu à tout. J'ai fait du culinaire. J'ai travaillé pour des grands magazines nationaux, mais en déporté en local, entre autres... si on peut se permettre de citer, je ne sais pas, oui, c'était
oui,
à l'époque le Nouvel Observateur qui est devenu l'Obs, Le Point, enfin j'ai des références nationales assez intéressantes. J'ai travaillé beaucoup pour des entreprises qui cherchaient à faire des plaquettes, des choses comme ça. Mais je vais pas dire que j'ai touché à tout en photo,
mais en
j'ai touché à beaucoup de domaines, parce que j'ai même fait du, entre guillemets, de la tête de gondole pour Chrono Drive. Donc c'est Auchan Drive en fait, mais à l'époque, enfin à Lille, ça existe toujours. Et j'aurais fait leur tête de gondole, des choses comme ça. Web, je parle.
D'accord, donc mettre en valeur des produits.
Mettre en valeur des produits, ouais, c'est seulement ça.
On est loin des photographies artistiques.
Tout à fait, oui. Et puis honnêtement, aujourd'hui, c'est bon, je fais encore du corporate, de l'entreprise. Je fais quasi plus de social, donc du mariage, etc. J'en fais quasi plus. Et le gros de mon activité reste aujourd'hui de la photo dite artistique.
Mmh. Vous êtes installé dans le Beaujolais il y a quelques années.
Je me suis installé dans le Beaujolais il y a 5 ans maintenant. C'était en février 2016 à Romanèche-Thorin, où en fait j'ai ouvert mon atelier et une galerie en même temps.
Ouais.
Donc j'expose en permanence une trentaine de photos donc, dans ma petite galerie, qui pour l'instant n'est pas encore ouverte tous les jours, mais qui va à partir du mois de septembre commencer à se développer. Là je suis sur mon expo, je suis en train de chercher d'autres expos. Donc c'est un travail de fond en fait.
Et justement, l'exposition que vous présentez, ça s'appelle « Perdu dans le Beaujolais ». C'est quand vous êtes arrivé, vous vous êtes senti perdu,
c'est... Ben en gros, c'est tout à fait ça. Quand je suis arrivé, donc après 50 ans de vie lilloise, où j'avais tous mes repères, tant sociaux que professionnels, enfin, la vie de tous les jours, entre guillemets, qui était lilloise, je suis arrivé donc en février 2016 à Romanèche-Thorin. Et du coup, je connaissais absolument plus personne. Ouais. Je dis toujours heureusement, enfin heureusement, j'ai la chance d'avoir un fils qui est jeune, donc j'ai côtoyé très vite des parents d'élèves.
Ouais.
Mais quelque part, je me suis senti vraiment perdu. Donc en fait, le sens perdu dans le Beaujolais, c'est une des premières définitions du mot perdu. C'est moi, j'étais vraiment perdu.
Vous n'avez plus vos repères.
J'avais plus aucun repère, tant social que environnemental.
Ouais.
Puisque la région du Beaujolais et la région lilloise sont deux régions qui sont complètement différentes. On part, entre guillemets, du plat pays, comme le disait Jacques Brel, à une région quand même, je ne vais pas dire montagneuse, mais
vallonnée,
très vallonnée en fait. Mmh. C'est ce qui est intéressant, et honnêtement, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui d'être dans le Beaujolais.
Et je ne connais pas très bien la région lilloise, mais moi j'imagine une zone, quelque chose d'assez industriel aussi, peut-être.
Alors la région lilloise n'est pas spécifiquement industrielle, parce qu'aujourd'hui le gros de l'économie lilloise, c'est plutôt le tertiaire. Il y a beaucoup de start-up. C'est une région qui a été très industrielle de par le textile, mais qui l'est beaucoup moins aujourd'hui.
D'accord. Et donc vous nous avez parlé des vallons dans le Beaujolais, mais vos photographies, de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de paysages. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant dans cette exposition?
Alors en fait, mon exposition se veut... Alors je dis toujours, je ne fais pas de la carte postale déjà.
Ouais.
Donc ce n'est pas des couchers de soleil sur les vignes, c'est absolument pas ça. C'était mon ressenti quand je suis arrivé. Alors ce n'est pas spécifiquement du paysage comme vous pourrez l'entendre. Moi je dis toujours, oui, je fais de la photographie environnementale et documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de garder une trace... d'un moment et d'une période. Donc oui, il y a du paysage, mais il n'y a pas que du paysage. Alors mon expo se scinde en gros en 5 tableaux. Donc le premier tableau qui représente une bonne vingtaine de photos, qui est toutes des images qui sont tirées essentiellement durant les périodes automnales, hivernales, donc avec beaucoup de brouillard, parce que c'est ce que j'apprécie aussi ici.
On a froid en regardant les photos.
Alors c'est pas qu'on a froid, c'est que... On ressent, enfin le spectateur, parce que j'ai eu, puisque je fais des visites commentées, j'ai eu des retours, et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que les spectateurs ressentent vraiment mon ressenti de l'époque quand je suis arrivé. Ouais. Bon, c'est une exposition que j'ai montrée, enfin pardon, c'est un travail que j'ai monté en gros sur 4 ans, et en fait, en 4 ans, on voit l'évolution de ce que je peux ressentir. Donc le départ est très...
distant.
Distant, oui, on peut dire ça comme ça, vous avez trouvé le mot. Et ensuite, dans mes tableaux, en fait, j'ai essayé de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai un tableau qui s'appelle « Traces d'un temps révolu et d'écocide ». Donc là, c'est de la photo un peu provocante et j'ai vraiment voulu provoquer les spectateurs en disant « Regardez ce que j'ai trouvé, entre autres, dans les vignes.
Ouais. »
J'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé des moteurs de véhicules, j'ai trouvé des pots d'échappement, des tracteurs abandonnés, etc. Ensuite, il y a un tableau qui s'appelle « Au fil des routes ». Donc là, c'est ce que j'ai pu trouver, des anciens arrêts de bus qui sont plus en service, vraiment avec une architecture pardon, et des matériaux de construction très intéressants. Ensuite, j'ai tout un tableau qui s'appelle « Solitude végétale ». Donc là, c'est que des arbres. Alors par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est des arbres qui sont tirés, enfin les images sont tirées toujours en période automnale et hivernale. Par contre, j'ai voulu refaire ressortir les 4 saisons quand même, même en restant en hiver. Donc j'ai joué en fait sur les couleurs de ciel, des choses comme ça.
Et vous arrivez à évoquer d'autres saisons que...
Oui, alors moi ce qui m'intéresse dans les arbres en fait, c'est que je dis toujours l'arbre entre guillemets ressemble à l'homme. Donc j'aime en fait avoir des arbres quelque part sans feuilles au départ. Et après, on joue sur les couleurs qu'on peut avoir. Je vais dire par exemple au mois de février où des fois on commence à avoir des sacrés ciels bleus,
ouais,
qui sont très intéressants. Et en fait j'ai voulu jouer sur un tableau 4 saisons tout en étant dans la même saison. Et ensuite j'ai voulu absolument terminer l'exposition par 8 images relatives je dirais au Covid. En fait j'ai repris le discours du président de la République en mars 2020 qui à plusieurs reprises a dit nous sommes en guerre.
Ouais.
Et je me suis imaginé, alors j'ai la chance de ne pas avoir connu la guerre, et je me suis imaginé ce que pouvait être la guerre sur le territoire du Beaujolais. Donc en fait, après je ne vais pas vous raconter les photos, moi je vous invite à venir découvrir l'exposition,
il faut venir les voir, bien
ça
sera
plus sympa. Et enfin la dernière photo qui était pour moi un passage obligé, c'est la seule photo où il y a une présence humaine, donc c'est une vendangeuse. On a l'impression qu'elle est venue d'un autre temps parce qu'elle est habillée comme il y a 30-40 ans en arrière, et qui regarde les monts du Beaujolais. En fait, pour moi, c'était vraiment un signe d'espoir, me dire, on va peut-être avoir un horizon enfin dégagé.
Il y a de la vie.
C'est vraiment une perspective de fin de pandémie.
Mm-hmm. Quand je pense notamment à la, au tableau sur les écocides où vous dites que vous faites pas de la carte postale, là vraiment on est dans du c'est pas une exposition pour dire le Beaujolais c'est magnifique. C'est un regard sur le Beaujolais où des fois il y a des choses qui font un petit peu tache qu'on voit dans le paysage et
Oui, mais c'est ce que je vous disais. Je fais pas de la carte postale. En fait, ce qui m'intéressait, c'est un peu d'être provocant, en fait, aussi sur cette partie-là, et de dire attention. Donc, parce que il doit y avoir de mémoire 4 photos où c'est des anciennes ruines qu'entre autres j'ai retrouvées dans la forêt de Bruy, du Mont Bruy, pardon. Et derrière, c'est 8 photos qui sont, je vous dis, des déchets. Qui, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'environnement, protection de l'environnement. Mais même à titre particulier, le particulier ne fait pas spécifiquement attention. Et alors, entre guillemets, on tape sur les doigts des gros industriels en disant que vous polluez. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, nous, en tant que particuliers, et dire il faut qu'on réagisse, parce que sinon, demain, comment va se retrouver notre territoire, en fait ?
Ça se passe à toutes les échelles, oui, effectivement. Vous nous avez expliqué un petit peu votre démarche. Ça veut dire qu'au moment de prendre la photo, ou en tout cas d'aller chercher des photos, vous avez déjà en tête une exposition avec le sujet que vous voulez traiter, ou c'est le contraire, si vous prenez des photos et avec, vous réfléchissez à...
Alors en fait, non, je ne prends pas des photos pour en dire d'en faire une exposition après. Je travaille plutôt à l'envers en disant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette thématique. Cette thématique, je vais en faire une exposition demain, en fait. L'expo perdue dans le Beaujolais a commencé en février 2016, quand je suis arrivé, parce que je fais de la photo tous les jours, en fait. Ouais. Et le but, c'était de monter une expo à terme qui s'appelait Perdue dans le Beaujolais. Je travaille toujours entre 5 et 8 thématiques, continuellement. Une expo, ça se monte en 4-5 ans. Et donc, en fait, mes thèmes sont vraiment précis. Bon, après, je fais au quotidien de la photo. Ça peut être n'importe quoi, une fois de plus, entre guillemets. Mais peut-être que les photos que je fais comme ça, à l'instinct, demain, j'arriverai à monter une expo.
Elles
feront partie d'une expo, même si je ne l'avais pas prévu au départ, en fait.
Parce que vous me parlez d'un travail de 4-5 ans sur l'exposition, il y a 54 photos, c'est qu'il y a quand même une sélection qui se fait...
La sélection est rude. Sincèrement, c'est quelque chose qui est très très difficile. Je ne sais pas, je suis parti à peu près de 200-250 photos.
Ouais.
Pour en sélectionner 54... ça a été franchement compliqué parce que une exposition, on n'est plus sur un écran. En plus, moi, j'ai voulu faire du grand format, donc c'est des photos, la grosse moyenne, c'est du 50-75, mais il y a des photos qui montent à 1m50 sur 2m.
D'accord.
Mais c'est très, très difficile de sélectionner. Il faut être cohérent dans sa démarche, en fait.
Et si on veut voir cette exposition, elle est jusqu'au 31 août à la Maison des Compagnonnages à Romanèche-Thorin.
Oui, tout à fait.
Et on peut aussi aller voir votre galerie pour voir des photos qui ne font pas partie de cette exposition et voir votre travail.
Alors, à aujourd'hui, sur les mois de juin, juillet, août, je n'ouvre pas la galerie volontairement parce que je ne veux pas faire... Parce qu'en fait, j'habite pas très loin du musée non plus. Donc, je ne veux pas faire deux expositions en même simultané. Temps, donc en fait, ce que je vais faire, c'est à partir du mois de septembre, recommuniquer. J'ai fait une exposition en 2019 que je vais remettre parce que beaucoup de gens me l'ont demandé parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir, qui s'appelait affichage périmé, pardon.
Ouais.
Et après, la galerie s'appelle De Lumière et du Couleur. Si vous la trouvez sur Internet, sur Google, etc. À partir du mois, ou même Facebook. J'ai fait une page Facebook. Et à partir du mois de septembre, je vais remettre des créneaux horaires de visite, en fait.
Et l'exposition, il y a des visites commentées.
Oui, alors je fais des visites commentées. La prochaine sera le 4 juillet, de mémoire, dimanche 4 juillet. Premier dimanche du mois. Après, je fais aussi des visites commentées, entre guillemets, sur demande.
D'accord.
Il suffit de me contacter et à des groupes de 2 à 6 personnes.
Donc sur le site de la galerie, on trouve votre adresse mail.
On trouve mon adresse mail, ou alors sur mon site même, on trouve mon adresse mail. Et il suffit de me contacter, je fais des visites commentées, en fait.
Très bien. Et j'ai vu, alors là on est à côté de l'exposition, vous avez vos photos, certaines de vos photos ont été acceptées au Leica Master Shot. Qu'est-ce que c'est ?
Alors qu'est-ce que c'est ? C'est pendant la pandémie, on ne pouvait pas trop sortir.
Ouais.
Donc je suis resté, entre guillemets, des heures devant mon écran. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais proposer des images à la marque Leica.
Alors Leica est une marque,
oui, c'est une marque d'appareils photo allemande et qui est très très réputée en fait. Et toutes les photos que j'ai prises qui sont à l'expo sont faites au Leica. Et je leur ai proposé deux photos. Et ces deux photos ont été retenues par l'équipe éditoriale du magazine en catégorie Leica Master Shot, pardon. Donc on arrive déjà.
Il y a une sélection.
Une belle sélection, oui. Et il y en a une des deux, entre autres, qui figure actuellement au musée.
Très bien, et donc qu'on pourra la voir.
Oui.
Merci beaucoup, Thierry Grégoire.
Bah, c'est moi qui vous remercie.
Venez nous parler de votre travail. On va se quitter en musique. Vous étiez perdu dans le Beaujolais. Nous, on écoute L'Impératrice avec Tant d'amour perdu, une reprise de Michel Berger. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir. Ce titre Tant d'amour perdu.
Ensemble sur Calade.
Instant sport.
Allez, il est l'heure de parler sport et pour cela on retrouve Eddy Bernard. Bonjour.
Bonjour Mathieu, on se retrouve avec plaisir en effet.
Et oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de sport. On va peut-être parler de l'actualité chaude, des dernières nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?
Ce week-end, Mathieu, dans la région, on était tous rivés au bord des routes de notre beau Beaujolais, ou derrière nos écrans en tout cas, mais pour suivre la 29e édition du Tour du Beaujolais cycliste, épreuve désormais très réputée, puisqu'elle réunit dorénavant le gratin, on peut le dire, hein, du plus haut niveau amateur, tant et si bien qu'on puisse encore parler d'amateurisme à ce niveau-là, autour, évidemment, du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, des loups qui sont à domicile, hein, donc effectivement, chaque année pour cette compétition, dont le format est pour l'instant, était encore pour cette année, donc sur 2 jours et 3 étapes, mais qui pourrait très bien, avec le beau succès qu'il rencontre et la qualité de son organisation, passer peut-être à 3 jours complets s'il est, dès l'année prochaine, et les rumeurs vont en ce sens, inscrit au calendrier permettant aux équipes professionnelles d'élite de pouvoir participer. Alors, ce plateau du Tour du Beaujolais 2021, il était d'une grande qualité parce qu'il y avait 14 équipes de l'élite nationale. Ouais. Dont d'ailleurs les jeunes coureurs d'AG2R Citroën Formation, hein, qui sont les futurs grandes stars du peloton, certainement, en tout cas pour certains, les opposants habituels des loups, hein, qui étaient tous au rendez-vous, le team Pro Imo, hein, ce sont des noms dont tu entends souvent parler, le VC Rouen, nos voisins de Vaux-en-Velin, de Bourg-en-Bresse, et puis bien sûr les grandes écuries régionales comme le CR4C du Rouennais, ou encore les Bisontins, les Dijonnais, etc., etc. Donc, pour les loups, certes, ils étaient à domicile, mais ils étaient attendus parce que, effectivement, pendant ces 2 jours de compétition, ils ont été surveillés. Et Maxime Jarnet, en qui nous avions effectivement placé de très, très importants espoirs, à juste titre, compte tenu de son début de saison, eh bien, Maxime Jarnet et ses coéquipiers, Sten Van Gucht, par exemple, n'ont pas pu bénéficier de la clémence du reste du peloton. Et ça a été très dur pour eux. Pourtant, ouais. Eh bien, le premier jour, samedi, nous avions au programme une très belle étape depuis le centre de Villefranche et jusque, pas très loin, jusqu'à Liergues, mais avec un circuit qui allait emmener les coureurs dans le pays de l'Arbrel, avec la côte de la Croix de Mazieux sur les monts du Lyonnais. Mmh. Le retour via la côte de Saint-Loup dans la Haute-Azergue, et puis la côte de Sainte-Paul pour rattacher, se retrouver à nouveau en Beaujolais, en Sud-Beaujolais. Et donc un petit circuit autour de Liergues. C'est le traditionnel, appelons-le comme ça, trophée Bruno Serra, Jérémy Debrun, hein, qui était au programme samedi. Alors, pour les coureurs du VCVB, très surveillés, la course débutait tout de même assez bien, puisque Sten Van Gucht et Maxime Jarnet avaient réussi à fausser compagnie en compagnie d'un très beau groupe, et donc à se détacher, hein, donc du reste du peloton, hélas. Et le week-end allait malheureusement derrière en pâtir, je dirais, des conséquences. Sten Van Gucht a chuté, et c'est vrai que ça a été extrêmement difficile après pour les loups de pouvoir tirer leur épingle du jeu lors de cette première étape. Mais pour autant, même si c'est Kevin Besson pour l'Occitane Cyclisme qui allait s'imposer en réglant un petit groupe de 5 coureurs détachés dans le dernier tour de circuit, eh bien, pour autant, Maximilien Juillard, l'un des louveteaux, appelons-le comme ça, du VCVB, un de nos jeunes prometteurs et talentueux coureurs en formation, s'est illustré parce que il a pris la tête du classement du Grand Prix de la Montagne, puisqu'il s'est illustré lors des côtes, hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que pour le VCVB, eh bien, effectivement, il y a eu un petit coup dans le casque, là, parce qu'à l'arrivée, malheureusement, eh bien, il n'y avait que ce pauvre Maxime Jarnet, déjà distancé à plus de 5 minutes du leader du classement général. Et donc, le reste de ce week-end allait être effectivement assez compliqué pour les loups. Alors la chaleur et surtout les chutes ont été effectivement décisives, hein, effectivement, dans cette première journée donc du Tour du Beaujolais.
Et alors, comment s'est passé le dimanche, le jour suivant?
Alors, le dimanche, nous avions le matin une courte étape de 50 km qui était une parallèle, on va le dire, au lit de la Saône, puisque il partait de Fleury pour rejoindre Saint-Georges-de-Renens dans un parcours qui suit là les départementales à proximité de la grande nationale.
Un peu moins vallonné,
ce que je veux dire. Toujours très vallonné, plus court, nerveux. et une course qui s'est détachée dans les derniers instants, hein, parce que effectivement sur une distance aussi courte, il était très difficile de fausser compagnie au peloton. Et c'est un groupe réglé par Michael Guichard du team Pro-Imo qui s'est présenté sur la ligne d'arrivée. Sten Van Gucht a tout de même pris une cinquième place, hein, à peine une petite seconde du vainqueur. Il était dans le dans ce tout dernier groupe là qui s'était détaché en fin de parcours, et il s'était visiblement assez bien remis de sa chute de la veille. À noter que Kevin Besson, le Bisontin, a chuté lui dans le dernier kilomètre alors qu'il était à la lutte pour remporter cette deuxième étape. Cela aura de l'importance parce que lorsqu'on chute dans le dernier kilomètre, eh bien le temps, alors on n'est pas mis hors course bien entendu le lendemain ou pour l'étape suivante, mais le temps retenu est celui du peloton qui est arrivé avec 17 secondes de retard, seulement 17 petites secondes sur ce groupe de 8 dans lequel donc il y avait Sten Van Gucht. Et puis au passage, eh bien, Maximilien Juillard, lui, a continué à glaner des points dans les différents classements pour les maillots distinctifs. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'était pour le dimanche matin.
Ouais. Et donc, comment s'est conclue cette compétition ?
Alors, dimanche après-midi, eh bien, c'était la troisième étape, une centaine de kilomètres depuis Quincy en Beaujolais, avec une boucle pour revenir à Saint-Étienne-des-Ouillères. Une boucle qui passe par les mythiques ascensions de nos beaux monts du Beaujolais, avec le col de Croix-Marchand, avec le col du Fût d'Avenat et la côte de Chirouble. Un petit circuit final donc autour de Saint-Étienne-des-Ouillères, avec la côte de Saint-Étienne-la-Varenne, à quelques kilomètres de l'arrivée, qui elle aussi a fait beaucoup mal aux jambes, hein, bien entendu, aux rescapés. Et bien c'est Simon Combe qui s'impose. C'est le coureur bisontin dont je te parlais tout à l'heure, qui s'impose en solitaire avec 6 petites secondes d'avance sur un Chambérien et sur le Caladois Thomas Joly, qui aurait pu, il a manqué rien pour peut-être en claquer une, comme on dit, hein, dans le jargon, pour les loups du VCVB. Belle place d'honneur en tout cas pour lui. Et puis Kevin Besson, eh bien, je t'en parlais tout à l'heure, Besson, lui, est arrivé avec 20 secondes de retard, et donc cela entérine, hein, tu l'as compris, cela entérine donc le résultat final, puisque c'est le pensionnaire donc de cette amicale cycliste bisontine qui remporte le général, donc devant Kevin Besson et Stéphane Bennett. Voilà pour ce palmarès. Alors le Caladois Maxime Jarnet est tout de même termine à une belle place d'honneur malgré les circonstances. Il a été, encore une fois, il lui a été impossible de fausser compagnie au peloton malgré ses multiples tentatives parce qu'il était l'homme à abattre, mais il termine tout de même 11e du classement général. Et alors l'énorme récompense et satisfaction pour les loups du VCVB, eh bien c'est bien Maximilien Juillard, ce jeune louveteau qui termine 9e du général, ce qui est tout de même pas rien, hein, au milieu de ce plateau de coureurs de très haut niveau. Mais comme si cela ne suffisait pas, eh bien il s'impose dans le classement du maillot rose, du maillot ocre, c'est-à-dire à la fois meilleur jeune de la course, meilleur coureur de deuxième catégorie, et donc il remporte le classement du combiné. Voilà, 3 maillots distinctifs, rien que pour lui. Le combiné, c'est l'ensemble des points qu'on marque dans les différents classements, donc général, montagne et le classement par points. Donc vraiment, il y a quand même du positif dans ce week-end pour les coureurs du VCVB, même si la victoire ne leur a pas souri.
Bon, bah, quand même un beau palmarès. Est-ce qu'on peut dire en quelques minutes un mot ou deux sur d'autres sports ? Est-ce qu'il y a d'autres actualités à soulever ?
Alors ça bouge, évidemment, les compétitions, hormis hein, les disciplines individuelles qui se pratiquent à l'extérieur, sont évidemment terminées pour cette saison. Mais en ce moment, eh bien, effectivement, c'est en coulisses que l'actualité se joue. Alors on y reviendra peut-être plus longuement la semaine prochaine pour faire un point complet, si tu le veux bien, de l'évolution l'évolution des choses pour nos différentes équipes de sport collectif. On en parlera un peu plus longuement. Mais on peut d'ores et déjà très rapidement noter que ça bouge du côté du Football Club Villefranche-Beaujolais, hein, des Tigres du FCVB qui prépare activement la prochaine saison, très certainement en National 1. Mais enfin, tout n'est pas terminé sur effectivement les éventuels recalés de Ligue 2. Hein, le dossier n'est pas encore clos, ce ne sera qu'à la fin du mois, donc on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'il faut d'ores et déjà se rappeler, c'est que nous avons appris ces derniers jours d'abord la fin de carrière de Maxime Jas, capitaine emblématique du FCVB, qui ne jouera plus sous les couleurs donc des Tigres en National. Et puis nous avons également appris les départs de Maxime Blanc et de Romain Fleurier, demi-surprise parce que même si Maxime Blanc devait encore un an de contrat aux Tigres, il ne faisait plus de doute qu'il souhaitait rejoindre le coach Alain Pochat qui, comme tu le sais, est parti chez notre voisin de Bourg-en-Bresse et a signé un nouveau contrat là-bas. Et eh bien, c'est de là, donc, Maxime Blanc et Romain Fleurier ont souhaité poursuivre l'aventure avec le coach Pochat et donc ne seront plus caladois. En revanche, Timothée Toflib, lui, a prolongé. Il devait lui aussi encore un an de contrat de toute façon, mais il a doublé la mise en s'engageant pour les deux prochaines saisons. Timothée Toflib, qui a été tout de même l'un des fers de lance de l'attaque caladoise, et c'est un joueur qui a réussi une très très belle saison, donc c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, eh bien, il y a également des jeunes formés par le club, hein, qui vont petit à petit intégrer l'équipe des Tigres, et en particulier Lucas Caruso. Nous en parlerons prochainement, bien entendu. Cette équipe qui sera bien sûr coachée par Hervé Della Maggior, qui est arrivé en cours de saison et qui dirigera, bien évidemment, comme prévu, le FCVB la saison prochaine. Si j'ai encore un tout petit instant, on y reviendra. Du côté des transferts, si l'on peut appeler ça comme ça, on se prépare pour les autres sports collectifs. Pour la prochaine saison, il faut savoir que Beaujolais Basket, notre représentant qui évolue dans le championnat de France National 2 avec de belles ambitions une nouvelle fois, a terminé, a complété son équipe qui sera donc entraînée par Pierre-Olivier Croizat pour la prochaine saison. Et l'effectif qui a été tout de même d'une belle stabilité puisqu'elle garde son trident offensif qui fait des ravages dans cette National 2, a terminé de compléter son effectif. On en parlera la semaine prochaine avec deux arrières et le meneur de jeu que l'on attendait, qui ont des CV relativement intéressants. On en parlera. Du côté du handball, on aurait pu avoir pour nos trois équipes évoluant en championnat national un maintien des différents entraîneurs. Ce sera 2 sur 3 puisque du côté de Belleville, le coach en place a préféré décliner. Du côté de l'équipe de National 3, à Belleville, Belleville-Val-de-Saône, on va chercher un remplaçant. Il y a des pistes. En revanche, à Villefranche, pour notre équipe de National 2, pour l'équipe caladoise, on reste en place, tout comme du côté des féminines de Saint-Julien, Denise et Glaisé, qui auront toujours leur coach emblématique à leur tête pour les uns et pour les unes et pour les autres la saison prochaine. Les effectifs sont en cours de constitution, on va en parler, bien entendu. Objectif maintien, c'est vrai, surtout pour les masculins, et peut-être plus si affinité pour les féminines. Mais des équipes en reconstruction, hein, évidemment, parce que depuis une saison et demie, les départs, notamment, il y a tant mieux.
On en parlera en détail la semaine prochaine. Eddy, merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Je crois qu'il y a beaucoup à dire.
Eh bien, la semaine prochaine. Alors,
la semaine prochaine en détail. Merci beaucoup, à bientôt. On va tout de suite enchaîner avec la suite du programme. On passe au jazz.
Ensemble sur Calade.
Mais la 11e.
Georges Bouton est avec nous en studio pour mettre la 11e. Bonjour Georges.
Bonjour Mathieu, comment vas-tu depuis lundi dernier?
Je vais très bien.
Ça va?
Oui, toi aussi.
Écoute Mathieu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé beaucoup aux professeurs qui ont souvent des perles de leurs élèves, des perles écrites, et il y a des choses absolument marrantes. Pour les professeurs, ça doit être tous les jours très amusant.
Ouais.
Mais c'est comme ça. Par exemple, tu vois... attendez, d'abord, je vous dis bonjour, amis auditrices, amis auditeurs. J'oublie toujours, je suis désolé. Je commence à être un peu gâteux.
On va pas les oublier, quand même.
Bon, alors, voilà quelques perles que les professeurs ont trouvées dans les devoirs qu'ils donnaient à leurs élèves. Par exemple, sur la guerre, les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. Ou alors, celle-là, elle est plus dure. À la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués.
Oui, j'imagine.
C'est cynique. Ou alors encore, le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtaient la victoire. Et un autre, sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui sont tombés. C'est pourquoi on les appelle des pierres tombales. Ça a une certaine logique. Et puis, par exemple, sur le Moyen-Âge, la famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient rien à manger. Monsieur Lapalisse aurait dit pareil. La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieillards.
Oui, ok.
Qu'est-ce qu'il y a encore sur Jeanne d'Arc. Jeanne détestait les Anglais, à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive. Faut la sortir, celle-là. Sur les sciences physiques, un avion dépasse le mur du son quand l'arrière va plus vite que l'avant. Il va être pilote d'avion, celui-là.
Oui.
Et puis, encore une, toujours sur les sciences physiques, la climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire. Et puis encore une ou deux, là, pendant qu'on y est. Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout. Il va être géomètre, lui. Pour trouver la surface, il faut multiplier le milieu par son centre. Là, ça doit pas être facile. Il va faire polytechnique. La nature. Pour faire des œufs, la poule doit être fermentée par un coq. Bon courage. Sur le corps humain, l'os de l'épaule s'appelle la canicule. Allez, encore une autre. L'alcool est mauvais pour la circulation. Les ivrognes ont souvent des accidents de voiture.
Oui, c'est pas faux.
C'est pas faux. Et puis sur les maladies, l'opération à cœur ouvert, c'est quand on ouvre la poitrine de la tête aux pieds. Faut la trouver aussi, celle-là. Bon, voilà. J'espère que ça vous a amusé un peu, amis auditrices, amis auditeurs. Alors, par contre, je vais vous mettre un très très beau blues qui s'appelle Shifricut Blues, interprétée par Clara Smith. Elle est accompagnée dans ce morceau par Louis Armstrong au cornet, Fletcher Anderson au piano. C'est donc deux très grosses pointures. L'enregistrement date du 2 avril 1925 à New York. Clara Smith, elle est née en 1895, décédée en 1935. Elle a vécu 40 ans. C'était une grande rivale au point de vue professionnel de Bessie Smith, mais par contre, elles ont quand même réalisé des duos ensemble. C'est une authentique chanteuse de blues avec une voix très pathétique et très mélancolique. Personnellement, j'ai trouvé absolument superbe. Voici donc Shifricut Blues par Clara Smith. Et en espérant que vous apprécierez ce blues, je vous dis, amis auditrices, amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain pour la 101e et à lundi pour la 11e.
À bientôt, Georges.
Ouais.
Très bonne journée, merci pour ce morceau. À bientôt. All the gale.
Ensemble sur Calade.
Mais la 11e.
Voilà, c'était Mai, la 11e, présentée par Georges Botton. Il nous a fait écouter Shipwrecked Blues de Clara Smith. Et c'est sur ces belles notes de musique que l'on va se quitter. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. Je vous laisse avec Hubert Félix Stephen et un de ses derniers titres, Du soleil dans ma rue. À demain, très bonne journée. Ciao, ciao.
Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Dans les jardins de la vertu, Minerve s'habille en guerrière. Mais moi qui ai rien d'un Mantegna, d'un Bellini, d'un Delacroix, je la peins sous les traits d'un rat. Dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Je me sens comme un ange déchu qui se serait trompé d'atmosphère. La première meuf que j'ai connue m'a expulsé à 4 du mat dans une maternité perdue qui fabriquait des automates. Qui fabriquait des automates. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. J'évolue et je vole à vue, loin des circuits réglementaires. Avec mes pensées qui s'encrassent, dans le froid de mes nuits d'exil, j'arrive plus à faire cette grimace qui sert de rire aux imbéciles, aux imbéciles. Y'a du soleil dans ma rue. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. La fille du soldat inconnu me dit putain beau militaire. Avec l'arsenal souterrain, planqué à l'abri de tes lois, chacun des 7 milliards d'humains être tué 40 000 fois, tué 40 000 fois. Y'a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Le soleil sévit ses vertus, mais la vie me visse à l'envers. Laisse-moi te prendre par la taille et me noyer dans tes cheveux sur le capriccio de Kodai. Faisons semblant, faisons semblant d'être amoureux.